Eh bien, rebonjour. Hein. Désolé de cette petite pause. Hein. J'ai dû donc aider Paul Cuisset à reprendre la main sur son micro. Écoute, bonjour. Bonsoir, Paul, parce qu'il est quand même tard. Bonsoir, Paul.
Bonsoir.
Oula, petit bon, bonsoir. Alors, tu es avec nous hein, sur Minecraft. On va quand même le préciser. Viens à côté de moi. Viens à côté de moi, derrière le fond vert.
Juste que je sélectionne mon truc.
Je te fais faire des choses, voilà. Parce que l'avantage du fond vert, c'est qu'on pourra voir donc tes jeux, hein, la vidéo de tous tes jeux derrière. Voilà, qu'on pourra voir juste derrière toi. Voilà. Bah écoute, déjà bienvenue. Merci d'être là.
Merci à toi.
Merci d'être là. C'est un grand plaisir. On a eu beaucoup de personnes hein, qui étaient très très contents hein, que tu sois là et qui te remercient. Bob notamment qui te apparemment te voue un culte hein, comme moi. Enfin, il te voue un culte pour tous les jeux que tu nous as offerts pendant notre enfance parce que on a quand même grandi avec. Hein, il faut savoir ça. Bah d'ailleurs on va vraiment en parler plus en détail. Alors, il faut savoir que tu peux nous donner en fait l'année à laquelle tu as commencé à développer des jeux vidéo.
Alors attends, parce qu'il y a des années qui comptent et puis des années qui comptent pas.
Ah bon, d'accord.
En fait, moi, j'ai commencé assez tôt. J'ai commencé en 83.
D'accord.
Mais j'étais à l'école, à l'université, et puis j'ai vraiment commencé en 85, 86. À bosser réellement dans les jeux. Avant, c'était en fait, je faisais mes armes, et puis je faisais des petits trucs dans mon coin, etc. Et puis je passais
le temps. Et qu'est-ce qui t'a fait venir hein, dans le jeu vidéo? Qu'est-ce qui t'a dit, tiens, je vais créer un jeu vidéo. Qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie?
Bah, à l'époque, c'est parce que c'était vachement plus marrant que de faire de la gestion, parce que je faisais de l'informatique, donc je trouvais pas ça très marrant. Et moi, j'étais passé plus de temps dans la salle informatique à jouer à des jeux. À l'époque, il y avait dans la salle des Apple, des Apple II. Et donc, j'ai découvert les jeux sur Apple II avec les jeux d'aventure aussi sur Apple II en texte. Et ça m'a donné envie de, alors au début, pas d'en faire mon métier, juste de faire quelques projets comme ça. Et puis, de fil en aiguille, ça s'est enchaîné.
D'accord. Alors moi, de ce que j'ai pu voir de ta biographie, tu as eu un premier jeu. Tu as eu un premier jeu que tu as commercialisé. Dis-moi hein, si je me trompe. Alors j'essaie juste. Il s'agit de Bio Mechanics. Pardon.
Bio Challenge.
Bio Challenge. Voilà, j'ai cherché le nom exact. Je voulais pas dire de bêtises.
Alors, techniquement, c'est pas le premier.
Ah.
En fait, le premier jeu, c'est un jeu qui s'appelait Phoenix,
d'accord,
qui était une sorte de Trailblazer en 3D, qui avait été fait sur ST. Ensuite, il y a eu Tonic Tail, qui était un casse-brique. Après, j'ai fait un troisième jeu. Alors, c'était une adaptation de Space Harrier, en fait, la bande d'arcade.
Space Harrier, d'accord.
Et ensuite, ça a été Bio Challenge.
Voilà. Bio Challenge, d'accord. Donc, on a les jeux juste derrière. Et est-ce que tu peux nous parler donc de ce jeu-là?
De Bio Challenge?
Oui, effectivement.
C'était un jeu de plateforme avec un robot. En fait, il avait la particularité de pouvoir sauter et en faisant une toupie, en fait, il pouvait décaler les plateformes et les faire tomber. Donc, on faisait tomber les plateformes sur les ennemis, on pouvait faire des sauts sur les plateformes pour les faire tomber, etc.
D'accord, effectivement, là on voit le jeu derrière. Alors moi je l'ai pas du tout connu hein, ce jeu là etc. Tu l'as vendu ce jeu?
Ouais, je crois que c'est le premier, c'est l'un des c'est le premier jeu d'Alphine carrément.
Ah, c'est le jeu des premiers jeux Delphine.
Premier jeu Delphine Software, ouais.
D'accord, j'étais pas certain en fait que ce soit Delphine Software qui l'est. Ouais. On va revenir justement sur la création de Delphine Software. Comment c'est venu de créer le jeu? De créer la boîte en fait qui a est-ce que en tu fait, peux nous parler en fait de la création de Delphine Software?
À l'origine, c'est pas moi qui ai créé la boîte.
Oui.
En fait, c'est une boîte qui au départ est une boîte de musique et qui produisait des artistes comme Pleiderman.
Oui.
Et donc en fait, ils ont eu l'idée de commencer à se lancer dans le jeu vidéo parce que un des amis du fondateur de la boîte qui était Jean Baudelot, était fan de jeux vidéo et occasionnellement faisait de la musique sur son Amiga.
D'accord.
Et donc, comme ça, ils se sont dit, tiens, ça serait cool de commencer à faire des jeux. Et donc, voilà, on s'est un peu rencontrés comme ça. Et puis voilà, ça s'est lancé tout doucement. D'abord par BioChallenge, qui était un jeu qui était un jeu indépendant, en fait,
Oui, c'était à l'époque, c'était l'indé. De toute façon, tous les jeux étaient un petit plus ou moins indés.
On faisait ça chez nous.
Effectivement, dans un garage, entre potes. C'était un petit peu la bonne époque, de ces jeux un peu faits dans un garage.
Et c'est comme ça que ça a commencé. D'ailleurs, qui est signé Jean Baudelot.
D'accord. Et d'ailleurs, petite question toute bête, et je pense que les gens se posent la question, en tout cas je me suis toujours posé la question, pourquoi Delphin Software ? D'où vous est venu le nom de ce Delphin Software ?
C'est facile. Delphine, c'est le prénom de la première fille de Paul de Senneville, le patron de Delphine.
Ah, tout simplement. D'accord. Ok. Je m'attendais à quelque chose de plus exotique, mais c'est tout bêtement comme ça.
Curieusement, donc après, il y a eu Adeline Software.
Adeline Software, bien sûr. Et Adeline Software, tu le connais aussi.
Fils, Paul.
Qui est la deuxième fille, c'est ça ?
Sa deuxième fille, voilà.
C'est génial. C'est formidable. Et il n'y a eu que des filles, donc effectivement.
Il y en a eu deux, donc du coup, après, il n'y a pas eu autre.
Il n'y a pas eu d'autres boîtes. Donc d'accord. Donc le premier jeu était donc BioChallenge, mais c'est réellement en fait à partir du deuxième jeu, on peut dire que vous avez commencé à prendre énormément de renommée. Je pense notamment au Voyageurs du Temps.
Ouais.
Est-ce que tu peux justement nous en parler, parce que je crois que ce jeu est extrêmement connu, mais il est aussi connu pour être extrêmement dur, parce que c'était un jeu textuel.
Alors, en fait, c'est un jeu qui a été, c'est le premier jeu d'aventure.
Ouais.
Qu'on a fait d'abord. C'est la première fois que je bossais avec Eric Chahi.
Eric Chahi, bien sûr.
Et donc, lui, il a fait les graphismes et moi, j'ai fait le scénario et la programmation.
Ouais.
En fait, on s'est rencontrés parce que je cherchais un graphiste, justement, parce que le graphiste précédent, qui était Denis Mercier, qui avait bossé sur le challenge, partait à l'armée, je crois. Mm-hmm. Je sais plus. Non, il partait pas à l'armée, c'était avant. En fait, il passait son bac, tout simplement. On était très jeunes.
Il y a de quoi se tromper, effectivement. Mais c'est vrai qu'on n'oublie pas qu'à l'époque, les gens, l'armée était encore obligatoire. Faut pas oublier. Pour les jeunes qui nous regardent.
Et donc voilà, donc du coup, je cherchais un graphiste et on m'a présenté Eric. Et c'est comme ça qu'on a commencé à bosser sur les Voyageurs du Temps, qui était l'un des premiers, qui était le premier jeu d'aventure Delphine.
Oui.
Oui.
Et est-ce que tu peux juste nous en dire quelques mots, en fait? Est-ce qu'il est exactement comme vous auriez voulu? Vous auriez voulu le modifier des choses? Parce que, on peut peut-être rappeler un peu le contexte du Voyageurs du Temps. Tu peux peut-être juste nous le rappeler, le contexte, qui on est, quel personnage on incarne.
Alors on joue le rôle d'un laveur de carreaux qui un jour découvre une conspiration alien et des machines à voyager dans le temps y a une guerre dans le futur et les aliens utilisent des bombes qui vont poser dans le temps.
Mmh. C'était un point and click, hein.
C'est un point de clic,
ouais. Ouais, tout à fait.
Et voilà, donc on va voyager à différentes époques pour retrouver ces bombes et éviter et trouver un moyen de les désamorcer.
C'était quand même un des premiers jeux hyper durs, parce que un peu vicieux même, je dirais, parce qu'il y a des moments où si on n'a pas un objet pour plus tard, on peut pas avancer dans le jeu et on peut plus revenir pour aller le chercher. Donc il y avait aussi cette notion de attention, on vous piège.
Ouais, mais en fait, c'était pas fait volontairement.
Ah, pas en plus.
C'était surtout que à l'époque, il y avait très peu de jeux d'aventure. C'était l'un des premiers jeux d'aventure à part les Sierra, mais je pense que c'était l'un des premiers jeux d'aventure à utiliser la souris.
Oui.
Et il y avait aussi beaucoup de mécaniques de game design qui n'étaient pas du tout, qui n'étaient pas éprouvées. C'est pas comme maintenant où on a tellement de jeux qu'on ne sait plus quoi en faire. À l'époque, il y avait peu de jeux et donc tout ce qu'on apprenait, en fait, on l'apprenait sur le tas.
D'accord. Vous n'avez pas de débugger et donc là, vous aviez un bug que vous n'aviez pas réglé finalement.
Non, c'est pas spécialement. C'est plus un défaut de conception, je pense.
Ah, d'accord.
C'est plus un bug de game design, on va dire. D'accord. Qui fait que effectivement, il y avait des cas où on se retrouvait à avoir besoin d'un objet, mais voilà, si on l'avait loupé, il fallait recharger la sauvegarde pour retrouver cet objet-là, par exemple.
D'accord.
Et c'était assez courant à l'époque d'avoir des jeux qui étaient plutôt mal, parfois mal pensés ou mal.
D'accord. Donc c'était pas volontaire, c'était vraiment une erreur de départ. Ouais. Non mais c'est super intéressant parce que les gens ne le savent pas forcément. Les gens pensent que les développeurs sont juste sadiques, ce qui n'est pas le cas.
On a été sadiques sur 2-3 points, ah hein, bon ça c'est sûr. mais disons que pour le système en général, c'était pas le cas. Par exemple, on avait aussi un défaut sur le jeu où on devait chercher des objets qui étaient tout petits à l'écran. Mm-hmm. Mais c'est parce qu'en fait, on avait une résolution qui n'était pas énorme, c'est du 320x200.
Ouais.
Et donc, planquer un petit objet dans une bouillie de pixels, forcément, c'est pas facile à trouver.
D'accord.
Donc, mais c'est ça aussi des défauts sur lesquels on a appris et qui nous ont permis d'avancer et de créer des choses différentes et peu à peu essayer de corriger.
D'accord. Et donc, de l'expérience des voyageurs du temps, vous avez fait croisière pour un cadavre.
Ouais, avant on avait un jeu qui s'appelait Opération Stealth.
Oui, je suis pas venu dessus parce que je me suis dit on en vient après parce que c'est une question d'enchaînement, mais il y a un vrai changement entre Opération Stealth et Voyageurs du Temps.
Il y a un changement d'équipe graphique en tout cas puisque
d'accord.
Est parti travailler sur Another World.
D'accord.
Et donc on a une nouvelle équipe qui bosse avec nous. C'est un ton complètement différent parce que c'est plus un côté un peu décalé et ça raconte l'histoire d'un agent secret à la James Bond. Donc il y a des gadgets, il y a beaucoup d'aventures. C'est un type de jeu un peu différent.
Et là, vous êtes vraiment ancré dans le jeu d'aventure. Le jeu de point and click, c'était vous vouliez faire que ça au départ ou c'était parce que vous avez dit bon, on va prendre l'expérience du jeu et puis on va faire un autre jeu du même style en faisant pas les mêmes erreurs.
C'était le trip en fait à l'époque.
D'accord. Ah oui, c'était
vraiment une époque où
c'était la mode.
Était à la mode. Et donc effectivement, c'était plus par passion.
D'accord. Et donc là après, vous avez après Opération Steel, vous avez fait Croisière pour un cadavre.
Oui.
D'accord. Ok. Est-ce que c'est des jeux qui ont marché tout ça?
Ouais, plutôt bien.
Ouais.
Oui, à l'époque, ça a plutôt bien marché. Ce sont les jeux qui ont fait la renommée de Delphine.
Vous étiez plutôt content donc du coup du résultat et vous avez dit bon on va commencer peut-être à faire autre chose.
Ouais, on a gagné beaucoup de prix donc on était content.
Oh, d'accord, on avait quand même gagné beaucoup de prix. Il y avait des bonnes critiques niveau presse.
Ouais, plutôt des bonnes critiques. On a été Tilt d'or, on a été Gen 4, enfin 4 d'or, etc. Donc il y a eu beaucoup de choses et les retours étaient très bons. On avait une bonne base de fans en fait, de gens qui aimait le jeu d'aventure, qui nous appelait au téléphone pour demander des aides. Et puis, il y avait un club, le club Delphine.
Il y a un club de fans que vous avez créé ou qui a été créé par fans?
Non, qu'on avait créé, nous.
Ah, vous avez créé, vous, d'accord.
Ouais.
D'accord, très bien. Juste une question concernant l'international. Vous vendiez les jeux en international ou c'était prévu que pour la France?
Non, c'était vendu à l'international, par exemple. Mm-hmm. Alors, en fait, on avait des distributeurs en Angleterre et aux États-Unis.
D'accord.
Notamment, bon, aux États-Unis, c'était Interplay, qui distribuait les Voyageurs du Temps. Ça s'appelait Future Wars. Opération Stealth, ça s'appelait James Bond. En fait, ils ont récupéré la licence de James Bond. Et le jeu est sorti sous le nom de James Bond. Bon.
D'accord.
C'était un petit peu dommage que je ne l'ai pas su plus tôt parce que je me serais beaucoup plus éclaté à jouer le côté de James Bond, mais bon.
Ouais. on prépare pas ce genre de choses, effectivement. Vous pensez avant tout au marché français, d'ailleurs, quand vous faites un jeu, ou c'est, vous vraiment faites pas attention du tout au marketing et vous faites un jeu pour vous, pour vous faire plaisir?
Bah, au départ, c'était vraiment ça.
Au départ, bien sûr, je parle.
C'est vraiment pour se faire plaisir et puis peu importe. Quand on est jeune, on se dit qu'on peut tout faire en fait. Donc, on s'en fiche et on y va quoi. On sait ce qu'on a envie.
C'est une belle mentalité qu'a les indés aujourd'hui. Et je trouve ça très très bien. J'enchaîne assez rapidement, effectivement. Juste une petite pause pour dire si vous avez des questions à Paul Cuisset directement, n'hésitez pas à les poser sur le Skype de Talk Show Am. je prendrai les meilleurs et je poserai directement à Paul Cuisset. Il y a des questions auxquelles je n'ai pas forcément pensé. Et puis c'est aussi à vous de poser vos propres questions ou bien sur le directement hein, sur le Twitter de avec le hashtag TalkShowAm. Je reviens vers toi, Paul, parce que là je vais parler d'un jeu qui m'est cher à mon cœur, qui sera toujours cher à mon cœur, parce que je pense énormément que ce jeu a changé ma vie et ma façon de voir le jeu vidéo, et j'y ai passé énormément de temps. Il s'agit bien entendu de Flashback.
Chaque fois, c'est ça.
Non, ça c'est le jeu pour Bob. Pour Bob Lennon. Non, bien entendu, je parle de Flashback. C'est un jeu que vous avez fait, donc justement, juste après, c'est Point and Click.
Oui.
D'après ce que j'ai pu voir. Déjà, combien de temps il vous a fallu pour faire le jeu?
Ça a duré à peu près 2 ans.
2 ans, quand même. Ce qui était beaucoup à l'époque, non?
C'était énorme.
D'accord.
C'était relativement énorme. Mais c'était un jeu sur lequel on a beaucoup prototypé. Et puis, on a passé beaucoup de temps pour à peaufiner les mécaniques. Et c'était un jeu compliqué parce que il y avait beaucoup d'animations. Donc, ça a pris du temps aussi de faire ces animations, de les monter, etc.
Donc, c'était une révolution à l'époque, hein, au niveau des animations. D'après ce que j'ai pu comprendre, puisque Eric derrière lui avait fait, Eric Chahi, hein, je parle. Eric Chahi avait fait Another World.
Oui.
Qui utilisait presque la même type de d'animation. Dis-moi si je me trompe, hein, mais en tout cas, ça a l'air vraiment de s'y ressembler, en tout cas au niveau des séquences vidéo. Et vous derrière, vous faites un flashback. Donc là, cette French Touch, oulala, j'ai du mal à le dire. French Touch était là finalement.
Oh, je sais pas si c'était vraiment la French Touch. Je pense que c'était plus une mouvance. Et puis. En fait, c'est quand même ces deux jeux sont des héritiers de Prince of Persia.
D'accord.
Donc, je crois que le premier jeu qui a brillé ce mouvement, c'était Prince of Persia. Effectivement, il y a eu un Underworld et puis ensuite Flashback. C'était, ouais, une envie, je pense, commune de faire des choses. On raconte une histoire. En fait, c'est vraiment, je pense, aussi peut-être le début du gameplay narratif où on arrive vraiment à intégrer les éléments de gameplay dans le scénario et inversement, intégrer le scénario dans le gameplay. C'était les débuts. C'est vrai que on a eu l'école du jeu d'aventure. Enfin, moi, j'ai eu l'école du jeu d'aventure où la narration était importante. Mais effectivement, ce qui m'avait toujours manqué, c'est ce côté, c'est la partie action qui a quand même moins dans les jeux d'aventure. Et donc, j'ai envie de faire quelque chose qui bouge un peu plus. Donc, c'est pour ça que.
D'accord.
Je suis parti sur ce projet-là.
J'ai une petite question de Thibaut Gdanoff qui a une question. Quelles étaient un peu les inspirations qu'il y a eu dans tes jeux? Quelles sont les inspirations qu'il y a pu avoir, notamment? Bah, moi, on parle de Flashback. Quelles ont un peu tes inspirations en général?
Beaucoup de. Enfin, en tout cas, pour ce qui est des scénarios, d'abord, c'est beaucoup de SF. Je dis beaucoup de SF et j'adore ça.
Ça se voit beaucoup dans Flashback, en tout cas.
pour ce qui est de la partie graphique, en fait, on a essayé d'exploiter au maximum la console. Et à l'époque, le challenge, moi, je m'étais fixé un challenge, c'est que, il faut savoir que Flashback avait été conçu pour la Mega Drive. On nous avait approché en disant, voilà, vous pouvez faire un jeu sur Mega Drive. Et donc, du coup, c'était notre premier projet sur console. Donc on voulait faire quelque chose de d'assez original parce qu'à l'époque la plupart des jeux consoles avaient une philosophie de développement complètement différente, c'est-à-dire que on privilégiait plus les gros sprites mais en détriment de l'animation, il y avait 4 frames, il y avait 4 images ou 5 images donc c'était assez faible donc on voulait arriver à quelque chose de radicalement différent. Mmh. Et essayer de faire le contraire, c'est-à-dire dire voilà, on va mettre des sprites plus petits, mais on va essayer d'avoir une animation beaucoup plus fluide. Donc on a fait des essais parce qu'on a entendu parler de la technique du rotoscoping, donc c'est-à-dire en fait on filme quelqu'un et on redessine la forme par-dessus. Et donc on a essayé et quand j'ai vu le résultat, je me suis dit tout de suite voilà c'est la technique qu'on va utiliser parce que le résultat est vraiment bluffant.
D'accord, ok, très bien. Petite anecdote hein, sur Flashback. Est-ce que vous avez il y a eu un moment de doute ou des moments de joie en fait pendant le développement de Flashback
Oh, oui, des moments de doute et des moments de joie, il y en a eu beaucoup.
Il y en a eu beaucoup. Est-ce que tu en penses un en particulier comme ça
Beaucoup plus de moments de doute que de moments de joie.
Ah oui, d'accord.
Malgré tout, c'était un projet assez compliqué parce que c'était quand même difficile à faire et on a eu plein de problèmes techniques, etc. Il a fallu.
C'est intéressant, ça, effectivement.
Complètement l'assembleur, c'était chaud.
On s'en rend pas compte, hein, effectivement. Quand on voit le jeu aujourd'hui, on s'en rend pas forcément compte. Mais ça a été quand même compliqué.
Je crois que personne n'avait fait ça avant nous. C'est-à-dire, toute la quantité d'animation de sprites qu'on a dans le jeu, par exemple, est relativement importante. Enfin, elle est phénoménale. Je vais pas dire relativement importante. Elle est très importante. Et personne n'avait osé, en fait, se dire, voilà, on va faire un jeu avec 4 images secondes, avec plus de 1000 frames d'animation pour un personnage. C'est un truc de fou. Et donc, il a fallu, donc, c'était pas juste de dire de le faire. C'était de trouver la technique qui permettait de compresser les sprites, de compresser toutes les données de manière à ce que, on puisse, au vol, en fait, stocker ça sur la cartouche et au vol, aller décompresser ça en temps réel, etc. Donc, ça a demandé une programmation et des technos de programmation assez pointues. Il y avait quand même des bons programmeurs chez nous qui avaient fait de la démo avant.
Oui.
Et donc, ils avaient été formés à l'école de l'optimisation. et ça a aidé beaucoup, quoi.
D'accord.
Donc, des moments de doute, ouais, parce qu'on a eu beaucoup, parce que évidemment, il fallait tenir le framerate, fallait que ça rentre sur la console, etc.
D'accord. Et là, donc, le jeu sort, ouais. Et c'est un carton.
Eh ben, la première surprise, c'est on le présente à un salon, il y a quelqu'un qui vient me voir, qui dit, je trouve ton jeu super. En fait, c'était Jordan Mechner.
Ah ben, juste Nolan Mechner, hein, qui est quand même, on va le rappeler, hein, le papa de Prince of Persia.
Ouais, ouais. Et j'étais super fier.
Forcément. Donc vous avez donc l'aval de Nolan Mechner lui-même, donc forcément tu étais super fier. L'accueil est extraordinaire, dithyrambique, des critiques, hein, je parle.
Les critiques sont très bonnes.
D'accord.
Le jeu se vend très bien. Je crois qu'il est rentré dans le livre des inventions.
Ah, carrément.
Enfin, dans le Guinness des records comme le jeu le plus vendu à l'époque.
Ah oui.
En France.
Ah oui, d'accord.
Le français le plus vendu. Oh. Donc, ouais, c'était un gros, gros carton.
Ah oui, effectivement, ouais. En effet. Et ça a été une surprise, une joie, j'imagine. Mais vous attendiez à ça quand même ?
Non, pas réellement. Après, c'est vrai que à le voir tourner, on se doutait que de toute façon il y avait quelque chose parce que c'était super original et ouais, je pense que
vous étiez fier,
ouais. Que ça marcherait. Ouais. Après, je pensais pas qu'on en parlerait encore 20 ans après.
D'accord. Ah oui, ça, oui.
J'aurais
20 ans après, tu ne pensais pas qu'on allait encore là aujourd'hui en parler et que les gens gardent une nostalgie de ce jeu quand même. Non, ça, ouais. Ça, tu t'y attendais pas du tout, d'accord, oui, effectivement. C'est pas le genre de choses auquel on attend sur le moment. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de Flashback, même si je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire encore. Après ça, vous devez être crevé, fatigué. C'est facile après de repartir pour refaire un nouveau jeu, ou vous êtes boosté, ou vous êtes là en train de dire quand même c'était dur, on fera pas un truc aussi gros.
Oui, non, en fait ça a été un boost parce que
quand même.
Effectivement, bon, la première idée c'est de on va faire une suite.
Oui, effectivement.
Mais on arrive à une période charnière. En fait, pour Delphine, c'est une période charnière parce qu'il y a deux choses qui vont se passer. Premièrement, l'arrivée des consoles, des PC équipés de cartes 3D.
Ah, c'est là que ça commence, d'accord.
La 3D commence à arriver, on commence à réfléchir. Donc du coup, forcément, Flashback, on commence à réfléchir, à se dire, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire en 3D, etc. Et puis, la deuxième chose importante, c'était l'entrée en jeu d'Electronic Arts qui vient nous voir en nous disant, voilà, on a adoré Flashback. Vous pouvez nous faire un jeu, mais un jeu de combat avec un basketteur.
Ah, et c'est là qu'on arrive à chaque fou.
Voilà, c'est là qu'on arrive à chaque fou, qui est un projet compliqué, parce que c'est un projet commandé par une très grosse boîte qui nous met la pression en disant, voilà, il faut que ça sorte, il va y avoir de la publicité, il va y avoir plein de choses, etc. Donc, il ne faut pas nous décevoir.
La pression déjà.
Beaucoup de pression et en même temps, notre technique à nous, c'est flashback, c'est-à-dire c'est faire de l'animation avec des petits personnages et absolument pas de mettre des gros personnages à l'écran comme des jeux de combat. Il y a quelqu'un qui se fait tuer.
Ça arrive à juste. J'espère que c'est pas chez toi en tout cas. Non, ça doit être sur le jeu, effectivement. Ouais. Vas-y. Te laisse pas.
Et donc voilà, donc on me dit laisse tomber Flashback, bosse sur chaque fou, et puis il y a quelqu'un d'autre qui commencera à travailler sur Flashback. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, c'était une révolution. Donc le Flashback 2, en fait, s'appellera Fade to Black.
D'accord. Juste par rapport à chaque fou, moi j'ai encore des gens qui me parlent de chaque fou en disant que ça les a beaucoup marqués parce qu'ils s'attendaient pas du tout à un jeu comme ça, un jeu de basketteur qui se bat et qui fait du kung-fu.
Je les rassure, moi non plus. Je m'attendais pas à ça. Je leur ai dit, mais pourquoi est-ce qu'on fait pas un jeu de basket? Moi, je peux vous faire un super jeu de basket avec un basketteur, c'est génial. Mais non. Mais d'accord. Je pense que c'est l'image de. Alors le truc, c'est qu'on comprend pas peut-être mal l'image de chaque fou en Europe. En fait, c'est comme si on demandait, je sais pas moi, aux Américains de faire un jeu sur Zidane, tu vois.
Oui, c'est ça.
C'est un autre esprit, et donc nous en Europe, on comprenait mal ce côté-là. Donc on avait du mal à comprendre le côté bad boy. D'accord. Côté,
On pose quand même la question, est-ce que tu es au courant qu'il y a un remake de chaque fou qui est prévu?
Ouais, j'ai vu ça.
T'as vu ça? Ça te fait rire?
Ouais, écoute, je pense que ça m'étonne pas du personnage.
Alors, je pense que tu peux baisser ton son encore.
Je vais essayer de couper le son, je suis désolé.
Pas de soucis. On va juste te laisser quelques secondes, effectivement, pour baisser le son. Donc, ok, donc tu es courant que. Notre ami, c'est bon. C'est bon, d'accord. Voilà. Donc il y a un remake qui est prévu. Effectivement, tu es au courant, mais tant mieux. Est-ce que tu es content? Est-ce que ça t'étonne pas? Peut-être. J'en sais rien.
S'ils peuvent faire quelque chose, pourquoi pas? Je crois que. Mais Shaquille O'Neal, je l'ai rencontré.
Tu as rencontré Shaquille O'Neal?
Ouais, je l'ai rencontré à l'époque parce qu'on avait fait les motion capture avec lui.
D'accord, oui, forcément.
Par contre, ça a été, pour le coup, ça a été une rencontre super et c'est vachement sympa. Donc j'espère que
d'accord.
Le projet réussira et va faire un truc.
Alors, tu nous parlais de Fade to Black. Est-ce que tu peux nous dire effectivement quelques mots sur le Fade to Black?
Fade to Black, c'était la suite de. C'était la suite prévue pour Flashback. Malheureusement, c'était un peu compliqué parce que c'est un projet complexe aussi. C'était la 3D, donc on connaissait pas à l'époque grand-chose de la 3D, puisque vraiment.
C'était le début, hein, effectivement.
C'était tout le début, donc les problèmes de caméra, les problèmes de placement, etc. C'était des choses qu'on connaissait pas, donc on a fait ce qu'on a pu. Donc voilà, je pense que le jeu est pas mal. Après, il y a beaucoup de défauts de jeunesse. J'ai regretté que techniquement on n'ait pas eu la possibilité de mettre les plateformes et d'avoir malheureusement, je sais pas si j'ai fait tout black, mais tout l'univers est plat, tu vois, contrairement à Flashback où on peut grimper, etc. C'est des features qu'ils ont complètement enlevées. Donc voilà, donc quand je suis revenu moi sur le projet, c'était un peu tard de faire les modifications techniques, donc voilà, j'ai pris un peu le moteur communauté.
D'accord.
On a essayé de raconter l'histoire avec, mais c'était pas facile, et c'était difficile de garder l'esprit du 1 parce que justement c'est un jeu à plat et on aurait dû mettre la troisième dimension comme l'a fait Tomb Raider après.
D'accord, donc c'était un moins bon succès pour le coup pour Fade to Black apparemment.
Ouais, ça a été plus
c'est plus compliqué.
Plus compliqué, bien sûr.
Ah, je comprends. Bien sûr. Vous avez quand même fait des bonnes ventes.
Ouais, ça c'est plutôt pas mal vendu. Hein. C'était à l'époque, c'était des bonnes ventes, sans que ce soit vraiment des ventes extraordinaires. C'est des bonnes ventes correctes.
D'accord. Et donc là, après Fade to Black, vous êtes passé à un tout autre cadre. Vous avez fait Motorracer.
Oui.
D'accord.
Alors. Il faut savoir qu'entre temps, parce que on bossait des fois sur plusieurs projets en même temps.
Oui.
Après Fade to Black, il y a eu un projet qui s'appelait Darkstone après, qui à l'époque s'appelait Dragonade, et qui était un RPG. C'est ce jeu qui a donné naissance à Monster Hunter.
Ah d'accord, alors, ok, c'est l'inverse, ok. Parce que moi je l'avais après.
J'explique comment un RPG peut devenir un jeu de mots.
Oui, ça c'est intéressant, effectivement.
Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que je travaillais sur les routines de collision pour le jeu, pour Darkstone. Un soir, comme je m'emmerdais, j'utilisais des cubes à l'époque pour tester les collisions et donc faire avancer un personnage sur un décor. Mon cube il était un petit peu allongé, donc je me suis dit tiens, ça serait marrant si il allait un peu plus vite. Donc je bricolais un truc rapidement pour que ça avance. Ensuite je me dis tiens, ça serait marrant si ça pouvait tourner. Donc voilà, je bricole un système de direction avec la friction, les dérapages, etc. Et puis au final, ça a donné un truc vachement marrant avec des cubes qui se baladaient sur un terrain et qui vraiment donnaient l'impression que ce sont des motos.
D'accord.
Donc voilà, après j'ai écrit le code multijoueur et je l'ai ramené parce que je faisais ça chez moi le soir. Et donc j'ai ramené ça à la boîte à Delphine et puis j'ai montré ça à tous mes collègues. Mm-hmm. J'ai bricolé ce truc-là, qu'est-ce que vous en pensez? Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que tout le monde y jouait.
Ah bah.
La boîte en réseau, tout le monde, le midi, s'arrêtait et jouait à ça. Donc c'est comme ça qu'ils sont venus me voir en disant « Mais oui, il faut vraiment qu'on fasse un truc avec ça, c'est vraiment super fun. » Et c'est comme ça que du coup, l'idée de commencer un jeu de moto a
mûri. Et voilà. qui est très fun pour le coup hein,
et a été adopté par l'ensemble de Delphine alors que c'était absolument pas notre vocation au départ, mais voilà, c'est un jeu qui est arrivé par hasard.
D'accord, grâce à Darkstone
voilà.
Ça, c'est une belle...
Ça a été probablement le plus gros succès de Delphine. Sûrement ça a été le plus gros succès de Delphine. Sur les trois motorisseurs, je crois qu'ils en ont vendu plus de 10 millions. Quoi.
Ah, 10 millions ? Ah oui, c'est plus que Flashback pour le coup.
Ah oui, beaucoup plus.
Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui, c'est plutôt étonnant, effectivement, soit le jeu de course qui a été fait quand même moins difficilement que Flashback et s'est vendu beaucoup plus.
Ouais, c'est l'ironie du sort.
C'est l'ironie du sort, effectivement. Et l'ironie aussi, c'est que finalement, Motorisseur reste votre dernier jeu. Il y en a eu trois, hein, effectivement, mais...
Ouais, en fait, il y en a eu trois. Entre-temps, on a sorti Darkstone, quand même.
Oui, et qui, effectivement, à une époque où Diablo était déjà sorti et qui faisait un carton.
Ouais, et voilà. Et ensuite, on a sorti les autres Motorisseurs, et Motorisseur était le dernier jeu Delphine.
D'accord. On va parler rapidement de Darkstone. Je sais pas s'il a bien marché. J'ai pas trop les chiffres de ventre. Est-ce que vous avez été inspiré par Diablo ou est-ce que Diablo est arrivé alors que vous étiez en train de faire le jeu ?
Non, en fait, on était pas mal inspiré par Diablo, effectivement. Et c'est arrivé, en fait, un petit peu. Nous, on s'est un peu posé comme la transition. Enfin, on était entre Diablo 1 et Diablo 2.
D'accord. Ok.
Voilà, c'était l'idée de faire un hack and slash en 3D, etc.
C'était le premier hack and slash effectivement en 3D complète, parce que voilà. Diablo n'était pas en 3D complète.
Et avoir un deuxième personnage en plus.
Oui, effectivement. On rappelle quand même que Darkstone, lui, est vendu encore aujourd'hui sur Android et iOS. Hein.
Ouais.
Si vous voulez essayer, essayez-le, il est pas très cher et c'est un des premiers hack and slash réellement en 3D, donc ça vaut vraiment le coup de l'essayer. Alors. J'arrive très rapidement sur la fin de Delphine Software. Qu'est-ce qui a fait que ça a fermé ?
Beaucoup d'erreurs. Le Motorisseur 3 n'a pas eu à marcher. Le budget a explosé. C'était très compliqué. Et puis, je crois qu'il y a une chose que... Comment dire ? Diriger une boîte, c'est difficile. Et il faut que son dirigeant il ait envie. Mmh. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que Paul n'avait plus envie de continuer. Donc ça a aussi beaucoup joué sur la balance parce qu'il était fatigué, il avait plus envie de gérer les difficultés de la boîte.
D'accord.
Donc voilà, ça c'est du coup ça s'est fait, ça la décision de fermer Delphine a été prise comme ça.
D'accord, ok. Et là, grosse période un peu creuse, on va dire. Là, tu t'es un petit peu éloigné du monde du jeu vidéo.
Ouais, pendant quelques années, je me suis reposé. J'ai pris des vacances parce que je prenais, en fait, j'ai un capital vacances énorme. J'ai jamais pris de vacances parce qu'en fait, j'ai toujours, comment dire,
d'accord.
J'ai toujours enchaîné les projets les uns derrière les autres. Souvent, il est arrivé que on commençait un projet, mais on savait que on était déjà en retard sur le projet. Donc, c'était quand même une course effrénée pendant une dizaine d'années.
D'accord.
Là, ça m'a permis un peu de me retourner, de me reposer. Voilà.
Et là, après peut-être 10 ans, je ne vais pas me présenir, 10 ans.
6 ans.
Tu fondes Vectorcell.
Oui.
Et vous commencez votre premier jeu qui est Ami.
Oui.
Alors. Ami, c'est vraiment une nouveauté pour vous puisque vous faites ton équipe, vous faites du survival horror, chose que vous n'avez jamais faite. Comment ça se passe? Il y a eu des difficultés? On connaît le destin d'Ami, hein, il n'a pas eu le succès forcément attendu. Peut-être juste un mot là-dessus.
Oui, c'était un premier jeu en survival, c'était un premier jeu PS3 Xbox, donc effectivement on n'avait pas une grosse expérience. Ensuite on n'avait pas un gros budget, donc l'erreur probablement a été d'essayer de faire quelque chose de trop gros par rapport au budget qu'on avait, donc ça a été très compliqué. Ça nous a coûté beaucoup d'argent, ça nous a coûté beaucoup d'efforts. Beaucoup de nuits blanches et puis finalement beaucoup de déceptions.
Ouais, je comprends.
Parce que tout ce qu'on a mis dedans, finalement, ça, ça a pas apporté ses fruits. Malheureusement, je crois que c'est un peu le risque quand on essaie de faire quelque chose d'original. Je pense que le concept d'Amy était très bon, l'idée était très bonne. La preuve, c'est que Last of Us utilise le même type de duo entre l'adulte et l'enfant qu'on protège, etc. Je crois que bien ça, sûr. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et c'était quelque chose de vraiment très intéressant. Après, je pense, voilà, on n'avait pas les moyens et on n'a pas réussi à raconter cette histoire comme il fallait. Ça a été, au début, ça devait être plus long, hein, l'histoire que le EMI tel qu'il est sorti, correspond à un tiers, en fait, du scénario parce que comme on n'avait plus de budget,
ah oui.
On nous a dit, couper, il faut sortir, couper le jeu et on sort comme ça. Mais en fait, donc tout, ce n'est que le chapitre introduction qui aurait dû, comment dire, l'histoire en elle-même est absolument pas finie. Elle ne fait que commencer à la fin des lignes.
D'accord.
Mais voilà, c'est ce genre de projet compliqué et douloureux
qui était un peu voilà, compliqué, ça, effectivement. Il y a pas de souci.
ça arrive malheureusement. Moi, après, ça nous permet aussi d'apprendre des choses. C'est que je pense que les jeux aussi avaient beaucoup évolué. On fait plus les jeux de la même manière. Il y a comment dire, beaucoup de changements. Enfin, le game design, mine de rien, parce que tout le monde dit oui, mais ça a pas changé. Et le game design est resté le même. C'est pas vrai. Je pense que le game design, c'est ce qui a probablement le plus avancé ces 20 dernières années. Même si les concepts restent plus ou moins les mêmes, la manière de les traiter et la manière de régler les jeux, etc., a plus rien à voir.
Ouais, bien sûr.
Donc effectivement, voilà, c'est beaucoup d'erreurs de jeunesse. Et puis on a essayé, mais voilà, ça n'a pas marché.
Je comprends. Et là, vous avez une commande d'Ubisoft, a priori. C'est ça, c'est une commande d'Ubisoft, hein. Flashback HD.
Ouais.
C'était eux qui voulaient un flashback remaster, enfin refait entièrement par Paul Cuisset.
Oui et non, enfin c'est-à-dire que c'est quand même nous qui les avons approchés parce que j'avais la licence de flashback. Moi j'étais parti pour faire un flashback plus 3D, vraiment 3D avec.
D'accord. Un peu fait comme Fade to Black peut-être.
Ouais, une caméra en arrière, etc. Enfin quelque chose de plus. Et c'est eux qui nous ont convaincu que ça serait plus intéressant d'avoir une vision
à l'ancienne,
etc. À l'ancienne.
D'accord. Et là, une fois de plus, une commande qui a été compliquée.
Ouais, exercice difficile. De toute façon, assez risqué. C'est-à-dire que soit on restait et on touchait pas au jeu, soit on essayait de faire quelque chose de différent et plus moderne. Je pense que de ce côté-là, c'est plutôt bien réussi. Après, effectivement, on retrouve pas forcément le caractère de l'ancien, mais je pense qu'il aurait fallu avoir les budgets d'Assassin's Creed
effectivement.
Pour faire des animations à la hauteur de ce qui se fait aujourd'hui. Malheureusement, on n'a pas eu ça. Donc, effectivement, on a perdu ce côté. On n'était plus leader sur l'animation clairement en 2014. Quoi. Donc, comme c'est le point fort du jeu, il est forcément plus difficile ensuite de soutenir les autres parties, etc. Donc voilà. Après, ce sont des choix. Moi, je suis pas je comprends le rétro gaming et la seule chose c'est que je suis pas dans cette optique-là et j'aime ce qui est moderne, j'aime ce qui est nouveau, etc. Donc du coup, le fait de refaire le jeu en pixels, c'était pas dans mon trip, quoi. Voilà.
D'accord. Ouais.
Donc après, on n'a pas trouvé la DA, on n'a pas trouvé. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui étaient difficiles et c'est pas facile de reprendre un jeu comme ça.
D'accord.
C'est beaucoup posé beaucoup de questions en fait sur la partie DA, sur comment le traiter, etc. Et c'était pas facile du tout en fait.
D'accord. Donc est-ce que tu penses qu'il y aurait peut-être bon espoir un jour d'avoir une vraie version ou une suite de flashback un jour dans l'univers de flashback ou c'est là c'est complètement terminé.
Écoute, tout est possible, je sais pas. Après, il faut vraiment y réfléchir et c'est vrai que. C'est pas facile.
D'accord.
L'héritage de Flashback est quand même difficile à porter. C'est assez lourd parce que le jeu original, effectivement, est ce qu'il est. Et donc, c'est difficile d'arriver derrière et faire mieux.
Je t'avoue que c'est le fan là qui parlait, hein, avant tout. maintenant. C'est vrai que Vectorcell n'existe plus aujourd'hui, hein, pour les problèmes qu'on a cités tout à l'heure. Aujourd'hui, tu reviens. Quand même avec Microids sur un nouveau projet dont tu as lancé le Kickstarter juste à présent. Le Kickstarter a réussi puisque tu as réussi à récolter les 40 000 dollars que tu demandais. Le jeu, il s'agit de Subject 13. Subject 13, hein, on va rester en version anglaise. Est-ce que tu peux nous en parler déjà du jeu? Nous en parler pour donner une vision de ce qu'est le jeu, de ce que pourrait être le jeu, pour donner envie aux personnes qui n'ont pas encore kickstarté de pouvoir le faire prochainement via PayPal. Est-ce que tu peux nous en parler donc justement de ce jeu-là?
Subject 13, Subject 13 ou Sujet 13.
Oui, Sujet 13.
C'est vraiment un retour aux sources.
D'accord.
C'est-à-dire que dans tous les sens, à la fois parce que je reviens au jeu d'aventure, parce que j'avais envie de créer un jeu basé sur le système de l'époque. Donc ça n'a pas été une clique, pas vraiment à l'ancienne parce que il est fait en 3D, il y a des mécanismes nouveaux, il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à avant. Mais qui essaie de garder l'esprit en fait de d'exploration, de découverte, et puis bien sûr il y a des puzzles, il y a une histoire qui est racontée, qui est l'histoire d'un homme qui a perdu sa femme et qui se retrouve tout d'un coup plongé dans un univers qu'il connaît pas, et il se fait appeler, on l'appelle le sujet 13, et donc il essaie de découvrir pourquoi et ce qui va se passer, pourquoi il est enfermé dans ce labo. Donc, c'est pour le jeu. Après, pour ce qui est de la production et le développement, c'est encore un retour aux sources parce que, en fait, j'ai commencé à développer le jeu tout seul. Donc, j'ai fait la programmation, le scénario, et puis, au départ, j'ai commencé à faire des graphismes juste en placeholder. Et ensuite, Microids est venu et m'a aidé justement à refaire toute la partie graphique. Ils ont apporté une équipe de développement qui travaille sur les graphismes. C'est quelque chose qui se fait différemment et j'ai l'impression de revenir vraiment au départ.
Mm-hmm. À tes débuts, au final.
Je prends, contrôler en fait le jeu et en faire ce que j'ai envie et sans trop d'avoir de contraintes.
Oui, puisque finalement, c'est les contraintes qui ont fait que aujourd'hui les jeux qui n'ont pas fonctionné, c'était à cause des contraintes au final.
Probablement pas uniquement à cause des contraintes. Après, je reconnais qu'il peut y avoir des erreurs de ma part, etc. Mais principalement, en fait, surtout j'ai appris que il est très difficile de diriger une boîte et de créer un jeu.
D'accord.
Et que je suis pas quelqu'un qui fait pour ça, donc de toute façon. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est créer des jeux, développer mes trucs dans mon coin, et puis m'éclater avec. Quoi. C'est ça qui me motive. Après, gérer les problèmes de trésorerie ou d'URSSAF ou de choses comme ça pour une boîte, absolument. C'est le genre de choses qui me détruit et qui me donne pas. Je veux dire, qui me pompe toute mon énergie. Okay. Donc voilà.
Je pense que c'est pas vraiment un problème qui t'est dû aussi à plein de développeurs qui ont du mal à monter leur propre boîte. On en citera pas d'autres, mais effectivement, c'est peut-être un souci. Un développeur n'est pas un chef d'entreprise.
Bon, très honnêtement, la France n'est pas beaucoup non plus. Donc,
c'est effectivement pas faux.
De construire une boîte en France, mais bon.
Non, je comprends tout à fait. Et donc, d'où est venue l'idée du Kickstarter? Parce que c'est quand même intéressant.
En fait, on a toujours besoin de régler. Microïd, une petite, petite structure quand même. Voilà, on avait envie de proposer à la communauté de nous aider à faire en sorte que le jeu soit mieux fini, soit plus plus beau graphiquement, qu'on ait plus de temps pour régler, parce que je suis persuadé que vraiment les derniers instants d'un jeu, les derniers mois sont les plus importants, et ce sont ceux qui font que au final le jeu a une qualité maximale, et ça, c'est malheureusement ce qui est difficile à obtenir, et ce qui est difficile à planifier dans une production. Donc on avait besoin vraiment de temps pour pouvoir rendre le jeu le mieux possible et le régler comme on souhaite qu'il soit réglé.
D'accord. Ok. D'accord. C'est très gentil.
Profitez pour remercier justement tous les backers tous les amis qui nous ont aidés en relayant l'information. C'était vraiment super. Merci vraiment encore à vous. Et on va essayer de faire le meilleur jeu qui soit.
Ouais, on a fait le maximum pour relayer au maximum l'information. Et j'avoue que je suis très content que tu sois là juste vraiment le jour même à la fin du compteur. En tout cas, c'est une très grande réussite et on espère que la réussite va payer et qu'on va avoir un jeu qui va plaire à tout le monde. En tout cas, on est très content. Je vais juste finir sur quelques questions d'auditeurs rapidement. Il y a quelqu'un qui dit juste, est-ce que tu penses qu'il faut péter un plomb, devenir un peu sadique dans son game design, histoire de faire passer le message que reprocher un manque de difficulté sans argumentation précise, ça veut rien dire. Alors, je sais pas si t'as compris ce que veut dire le monsieur. En gros, comme ce qu'a fait les devs dans Return to Zork à l'époque. En gros, est-ce qu'il faut devenir sadique dans son game design pour faire passer un message? Il faut que ce soit difficile.
Après, je pense que c'est une question de philosophie, et c'est vrai que ça a beaucoup changé. Mais la philosophie qu'on avait, qu'on avait au début dans les années 90, c'était vraiment de se dire voilà, à partir du moment où tu joues un jeu, les premiers niveaux on te les laisse passer, et ensuite en tant que game designer, on va s'arranger à faire en sorte que ce soit de plus en plus difficile. Et c'est un peu, je voyais un peu les choses comme un challenge entre moi et le joueur. Entre les gens qui développent le jeu et le joueur, c'est de proposer vraiment quelque chose de... Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est peut-être difficile à faire passer, puisqu'on est dans la même optique, et que finalement, si tu finis pas un jeu, c'est considéré comme un échec, finalement.
D'accord. Toi, t'es un gros joueur encore aujourd'hui?
Je le suis entre deux projets, c'est-à-dire que j'évite de jouer trop pendant que je développe.
D'accord. Pour éviter d'être tenté à faire une chose.
Évidemment, parce que ça prend beaucoup de temps.
Évidemment.
Du coup, c'est compliqué, mais deuxièmement aussi parce que je veux éviter en fait le syndrome, si tu veux, des gens qui veulent faire le jeu auquel ils ont joué juste derrière. Et le danger, c'est ça, c'est quand tu joues, en fait, les jeux te plaisent et tu te dis, bah oui, bah, je vais faire ça, puis je vais faire ça, et puis je vais faire ça. Et au final, tu perds le fil et tu arrives souvent à piquer des idées aux autres, premièrement, et deuxièmement, à faire des choses qui sont pas adaptées au projet initial parce que, et donc ça fait des choses qui sont parfois, pas,
je vois. Qui sont différentes de ce que tu avais prévu au départ, en fait.
Voilà, on se perd, quoi. Et en fait, l'idée, c'est de garder la vision initiale. Okay, alors, bien sûr, quand important. Ça dure 2 ans, c'est un peu compliqué.
Effectivement.
Quand le projet dure 2 ans, c'est un peu compliqué. Je suis quand même obligé de jouer un petit peu. Mais je suis moins gros joueur qu'avant, parce que ça me prend beaucoup de temps.
D'accord. Juste pour finir, en dernière conclusion, une question encore auditeur. Je pense que ça ferait une bonne conclusion. Qu'est-ce que tu penses des jeux actuels? Notamment donc les jeux AAA, je pense qu'il y a deux niveaux, AAA et indé. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui du marché de jeux vidéo et les jeux actuels?
Moi je trouve que les jeux AAA sont quand même plutôt pas mal fichus et que vraiment il y a quand même quelques productions qui valent vraiment vraiment le coup, quoi. Il y a vraiment des chefs-d'œuvre.
Un petit exemple comme ça.
Après c'est peut-être parce que j'ai fait EMI avant, mais Last of Us, je trouve que c'était vraiment un chef-d'œuvre.
D'accord.
Après dans les jeux indés, c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a des projets qui arrivent à émerger et qui sont quand même super originaux et super jolis, quoi.
D'accord.
Je sais pas, un Monument de Valais par exemple, je trouve ça très joli. Ça marche plutôt vachement bien, quoi.
D'accord. Bah écoute, merci beaucoup pour cette longue interview. On est presque 3/4 d'heure d'interview, presque 1 heure d'interview. Je pense que une bonne partie des gens
se sont endormis.
Non, pas du tout. Une bonne partie des gens ont beaucoup aimé. J'ai beaucoup de réactions sur le chat, j'ai eu plein de questions, etc. Donc j'ai vraiment essayé de trier comme je pouvais. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir revenir sur ta carrière, d'avoir ton avis aussi du jeu vidéo. Et puis, en tout cas, on te souhaite tous très bon courage pour Subject 13 et les futurs projets à venir. Et on espère que tu auras l'occasion de revenir nous voir pour en parler.
Eh bien, merci, ce sera avec plaisir.
Merci, Paul. À très bientôt. Bah, tu peux rester avec nous sur Minecraft si tu as envie. Mais je crois qu'il est tard, donc je pense que tu vas aller te coucher.
Oh, au revoir.
En tout cas, voilà. Bah, merci à toi, en tout cas.
Merci, au revoir.
Au revoir.